Le premier grand journal de la soirée, est-ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 22 février avec le journal de Sébastien Nogeny. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir, c'est la pression qui monte encore d'un cran autour des parrainages.
Oui, à 10 jours de l'échéance, plusieurs candidats sont à la peine pour trouver leurs 500 signatures. Et cela malgré les appels du Premier ministre lui-même aux élus locaux. Parmi les plus en difficulté, Marine Le Pen qui a même décidé de suspendre sa campagne de terrain, on l'entendra dans ce journal. Pas question, en revanche, de la soutenir pour Anne Hidalgo. Réaction à suivre dans un instant. Dans la crise ukrainienne, l'Europe s'apprête à adopter des sanctions personnelles contre des hommes politiques russes et des hommes d'affaires. L'Allemagne, pour sa part, fait tomber un tabou et suspend la validation du gazoduc Nord Stream 2. Nous serons en Allemagne, puis sur le terrain, pas d'embrasement militaire. Les Ukrainiens du Donbass s'inquiètent toutefois de voir arriver les chars russes. Nous serons sur place en Ukraine dans ce journal.
Et à 18h15, un jour dans le monde, nous serons nous dans la tête de Vladimir Poutine ce soir encore. On voit bien, vous l'avez dit, s'agiter autour de lui les menaces de sanctions qui sont en train de tomber. Et malgré tout, quelle suite faut-il imaginer? Qu'est-ce qu'il faut redouter? Comment même anticiper sur le prochain mouvement de Poutine? C'est avec Marie Mandras, grande spécialiste de la Russie, que nous poserons toutes ces questions. À 19h20, c'est le téléphone sonne. Sortons un peu de ce contexte de guerre. Je vous emmène boire un verre dans l'un de ces établissements où les restaurateurs cherchent à faire revenir leurs salariés. Des négociations ont recommencé ce mardi. On ne parle pas de salaire, on parle de conditions de travail. Sur la table, il y a des 13e mois, des week-ends non travaillés, il y a moins de coupures dans la journée. Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000.
France Inter.
Grosse tension donc Sébastien autour des parrainages.
Oui, le temps presse, plus que 10 jours avant le 4 mars, date limite pour déposer ses 500 parrainages au Conseil constitutionnel, essentiel pour pouvoir être légalement candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, le Premier ministre est monté lui-même au créneau à l'Assemblée nationale. Jean Castex lance un appel aux élus locaux pour les faire participer à cet acte démocratique, dit-il. Il doit réunir les associations d'élus locaux jeudi prochain. Il faut dire que plusieurs candidats n'ont pas encore atteint le quota, comme Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National qui a carrément décidé aujourd'hui de suspendre sa campagne de terrain en attendant d'obtenir les sésames qui lui manquent. Il lui en faut encore 107. On écoute Marine Le Pen.
Les choses s'élargissent un peu avec justement tous ces appels qui ont été lancés. Mais enfin, c'est malheureux d'en arriver là, quoi. C'est malheureux d'en être à se poser la question de savoir si la candidate arrivée au second tour la dernière fois et donnée au second tour cette fois-ci est en capacité de gagner la présidentielle, va pouvoir ou non la semaine prochaine être candidate à la présidentielle. Ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans que personne n'a été capable de changer ce système qui est aujourd'hui complètement dénaturé et complètement dévoyé. Les candidats sont dans l'angoisse et on attend, on travaille, on appelle les maires, tout le monde est sur le terrain, mais pendant qu'on fait ça, eh bien, on n'est pas en train de convaincre les Français. Et c'est pourtant fondamental aussi en démocratie que le jour où ils vont aller voter, ils sachent pourquoi ils vont aller voter.
Alors qu'en pensent les autres candidats à la présidentielle? Ceux qui ont déjà leurs 500 signatures, faut-il aider les candidats en difficulté? Pas question pour Anne Hidalgo, la candidate socialiste. Écoutez l'interview exclusive qu'elle a faite pour France Inter.
Si on n'est pas capable de convaincre 500 maires sur 42 000 élus qui peuvent parrainer, alors il y a un petit problème. Qu'on ne nous prenne pas pour les idiots du village, quand même. Zemmour qui tient des propos, qui sont des propos mais antidémocratiques, des propos négationnistes, des propos qui sont extrêmement dangereux pour l'équilibre de notre pays et qui nous renverrait à une forme d'indignité au banc des nations, que au nom de la démocratie on vienne chercher des formules pour lui donner des parrainages, mais de qui se moque-t-on?
Marine Le Pen et Anne Hidalgo au micro de Maxence Lambret. Qu'on reste en politique avec la campagne présidentielle qui se poursuit ici à Radio France depuis ce matin.
Des candidats et des jeunes.
Voilà, au studio 104 de la Maison de la Radio, 7 candidats répondent depuis ce matin aux questions de 100 jeunes. Journée de débat organisée par France Inter avec l'association Chemin d'Avenir. Marine Le Pen, que l'on entendait à l'instant, est en ce moment face aux jeunes. C'est la dernière intervenante de la journée. Ce matin, on a entendu Fabien Roussel, Éric Zemmour, Yannick Jadot. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Vous êtes dans ce studio 104 de la Maison de la Radio. Place cet après-midi à Christiane Taubira, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse.
Et à l'applaudimètre, c'est la gagnante de la primaire populaire qui l'emporte.
J'ai l'impression que la salle est déjà acquise.
ça.
Une salle déjà acquise pour Christiane Taubira qui déclare sa flamme à la jeunesse.
La fierté de ma vie, hein, ce serait d'avoir vraiment modelé une génération. Ma cause, c'est la vôtre.
Côté proposition, cela reste assez vague, hormis ces 800 euros par mois pendant 5 ans, revenu d'émancipation largement partagé à gauche. La socialiste Léa, Anne Hidalgo, justement, mise elle aussi sur l'empathie face à cette jeunesse.
Léa, c'est à toi.
Ah, j'ai énormément stressé. Je vague dans tous les sens, c'est horrible.
Tout le monde est stressé.
Moi aussi.
Et elle propose une mesure choc sur l'environnement, préoccupation majeure de la jeunesse.
Vous pouvez serrer la main à tout le monde si vous voulez.
Je ne sais pas si on a le droit de serrer les mains.
Ah, non, regardez.
Normalement pas encore.
On se met, voilà. Alors, voilà, restez là.
Valérie Pécresse qui salue un à un les 14 jeunes venus l'interroger. Préoccupation majeure de la jeunesse, l'environnement, je vous le disais, et la proposition d'Anne Hidalgo, un tribunal pénal international qui jugerait les crimes d'écocide. La candidate de LR, Valérie Pécresse, on y revient, qui prévient les jeunes si elle arrive au pouvoir.
Je pense qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, mais c'est parce que vous allez vivre plus longtemps.
Et en ce moment, vous l'avez dit, Marine Le Pen clôt cette journée sur scène, journée au cours de laquelle les candidats auront tenté de séduire un public de plus en plus engagé qui vote de moins en moins.
Simon Le Baron en direct du studio 104 de Radio France.
Et direction l'Ukraine maintenant dans les zones au plus près des régions séparatistes.
Ces républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, tout à l'est du pays, dont Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance hier, franchissant un nouveau cap dans l'offensive contre Kiev, près de 24 heures après ce tournant dans la crise. Où en est-on sur le terrain? Qu'est-ce que cette reconnaissance a changé concrètement? Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Sébastien.
Envoyé spécial en Ukraine, vous êtes dans une petite ville, un territoire tenu par l'armée ukrainienne, à 800 mètres de la ligne de front, à 800 mètres des forces militaires pro-russes, dans une zone étrangement calme, Thibault.
Oui, le checkpoint de Mayorsk, au nord de la ville de séparatiste de Donetsk, est au bout d'une longue ligne droite. Une mauvaise route bordée de végétation qui cache dans les champs autour de l'équipement des militaires ukrainiens prêts à riposter en cas d'agression. Ambiance étrangement calme en milieu d'après-midi. Des aboiements de chiens, vous l'entendez, interrompus par moments par des bruits sourds, lointains de tirs d'obus ou d'armes automatiques. Les séparatistes de la République autoproclamée de Donetsk sont à environ 800 mètres, vous l'avez dit. Face à eux, donc, quelques soldats ukrainiens contrôlent la frontière officieuse. Mais à part un 4x4 blindé, des observateurs de l'OSCE chargés encore de surveiller les entorses aux accords de Minsk, pourtant largement piétinés. Il n'y a personne, aucune traversée ou tentative de traversée sur un checkpoint qui, de toute façon, est officiellement fermé.
Et qu'est-ce que vous disent les habitants de cette région, Thibault? Craignent-ils de se retrouver sous la coupe de l'armée russe dans les jours, dans les semaines qui viennent?
Alors il reste environ 200 habitants à Mayorsk, ils étaient plus du double il y a quelques années. 200 habitants qui jour après jour, nuit après nuit, vivent avec l'angoisse permanente d'être touchés par une balle perdue, une explosion ou un éclat d'obus. La nuit dernière a encore été violente, la prochaine devrait être aussi intense. Et pourtant, ils restent là, étonnamment calmes, alors que l'avenir de l'Europe se joue juste derrière les murs de ces petites fermes chauffées au charbon. Séparatistes, russes, ukrainiens, peu importe, pensent tous les habitants que nous avons rencontrés. Pourvu que nous puissions vivre en paix. La guerre incessante depuis 2014, malgré quelques périodes d'accalmie, a usé les hommes. Et l'arrivée des chars russes aux portes de leur maison ne semble être qu'une énième péripétie dans la destinée tragique qu'ils subissent depuis désormais 8 ans.
Voilà Thibault Lefebvre en direct de Mayorsk dans l'est de l'Ukraine avec Jérémy Thuil pour les moyens techniques. Face à cette situation, les promesses de sanctions se multiplient. Depuis cet après-midi, les ministres des Affaires étrangères européens sont réunis à Paris pour valider un premier paquet de sanctions dans le secteur financier notamment. Premier pays à avoir dégainé le Royaume-Uni avec des rétorsions contre 5 banques russes et 3 hommes d'affaires. Les États-Unis pour leur part s'apprêtent à muscler leur riposte. Joe Biden doit prendre la parole dans la soirée. Reste le cas particulier de l'Allemagne, très dépendant de la Russie en matière d'énergie et pourtant sous la pression de ses alliés. Berlin a fini par se résoudre à suspendre le très sensible gazoduc Nord Stream 2. À Berlin, Emmanuel Chasse.
En Allemagne, après des mois de tergiversations, le chancelier Olaf Scholz s'est finalement résolu à suspendre le très controversé gazoduc Nord Stream 2, dont la mise en service avait été approuvée en octobre dernier par le gouvernement précédent, celui d'Angela Merkel. Un changement de cap pour Olaf Scholz, justifié pour le chancelier par la menace bien réelle d'une guerre en Europe de l'Est.
L'Europe vit des heures, des jours très difficiles. Près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre menace en Europe de l'Est.
Il est de notre devoir d'éviter une telle catastrophe et j'en appelle une fois de plus à la Russie pour qu'elle nous aide.
Si Olaf Scholz s'est rangé à l'avis de ses alliés et à la demande de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, il le fait surtout après une pression de ses propres partenaires de coalition et notamment des ministres verts de l'économie Robert Habeck et des affaires étrangères Annalena Baerbock. Cette dernière avait rappelé lors de la conférence de Munich sur la sécurité ce week-end que l'Allemagne ne reculerait devant aucune sanction.
Nous, en Allemagne, nous sommes prêts à payer les conséquences économiques lourdes de ces sanctions. C'est pourquoi, pour moi, pour nous, Nord Stream 2 est également mis sur la table.
Ce prix économique pour l'Allemagne sera sans aucun doute lié à sa dépendance énergétique envers la Russie, qui lui fournit actuellement 50% de son gaz naturel.
Voilà, ces sanctions contre la Russie, le gouvernement français les soutient fermement. Jean Castex l'a dit cet après-midi à l'Assemblée nationale, un soutien partagé en grande partie par les députés, mais parfois du bout de lèvres, Anne Souhaitement, au Palais Bourbon, la campagne présidentielle n'est jamais très loin.
Oui, et c'est Damien Abad, chef de file des députés LR, qui lance le débat, jeu d'équilibriste pour le parlementaire qui joue la responsabilité mais attaque.
Dans le moment où nous sommes, nous devons tous faire preuve de responsabilité. Et je le dis ici, nous ne devons pas utiliser cette crise à des fins politiciennes. Le moment viendra de faire le bilan de la diplomatie française en Australie, au Liban, au Sahel et en Ukraine.
Damien Abad, suivi par Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI, qui lui aussi salue les efforts de médiation du président Macron, mais questionne le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron.
Il se trouve que après l'enlisement au Liban, l'humiliation sur les sous-marins australiens, ou encore les échecs des stratégies successives au Mali qui nous conduisent à quitter ce pays et dont nous débattrons tout à l'heure, c'est un épisode de plus, peut-être l'épisode de trop.
Réponse immédiate du Premier ministre, Jean Castex dénonce l'instrumentalisation politique d'une crise d'ampleur.
De grâce, alors que la France fait tous ses efforts pour empêcher la désescalade, je pense que nous devons plutôt être soudés et rassemblés dans cet objectif plutôt que de chercher à en tirer des profits politiciens intérieurs.
Du côté des socialistes, même tonalité, on joue l'Union nationale, mais on demande un débat devant le Parlement. Un comité de liaison avec les présidents de groupe sera réuni dès vendredi, annonçait Jean Castex.
Anne Souhaitement, à l'Assemblée nationale, la crise ukrainienne, on y revient une fois encore ce soir dans Un jour dans le monde, juste après ce journal. Un mot de sport avec un grand soir ce soir pour l'équipe de football de Lille, le LOSC qui dispute le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions sur le terrain de Chelsea, champion en titre.
Et puis Sébastien, voici un bébé qui devrait faire le délice des adeptes de numérologie.
Elle s'appelle Erel et elle est née aujourd'hui, le 22 février 2022, autrement dit le 22-02-2022, à 6h du matin dans une maternité. Tenez-vous bien, des Côtes d'Armor, code postal 22 également, la mère et la belle-mère sont ravis.
Alors en fait, ma fille était prévue en mars, donc on s'attendait pas du tout à ce que ce soit février, et en fait il y a eu des petites complications en fin de grossesse, et donc je devais être déclenchée demain. J'avais décidé de venir un jour avant, et donc j'ai été en travail toute la nuit, et puis j'ai accouché ce matin à 6h. C'est ma belle-mère qui m'a dit ce serait bien qu'elle naisse le 22-02-22 dans le 22. Donc on l'a appelée en visio, et du coup elle était trop contente, elle avait trouvé la date. C'est une jolie date que personne n'oublie, quoi.
Et le fait qu'elle naisse en plus dans les Côtes d'Armor, dans ce département du 22, vous dites on a bon partout, là, sur toute la ligne?
Oui. Bah ça, on y tenait vraiment parce qu'il y a une maternité qui est plus proche de chez nous dans le 29. Mais habitant dans le 22, on voulait absolument que ce soit dans le 22. Et donc, c'est un signe de plus.
Vous pensez qu'il y aura 22 bébés à Guingamp d'ici minuit?
Non, c'est pas possible.
On l'espère quand même. 22, voilà, RL, voilà le rose maman qui était au micro de Cécilia Arbona.
Heureusement qu'elle ne l'a pas appelé palindrome, dites-moi. Merci beaucoup Sébastien pour le journal. Vous revenez tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Vous nous parlerez notamment d'un ours en Californie qui à lui seul peut-être nous parle de réchauffement climatique en s'approchant trop près des maisons. Ce soir, nous essayons de comprendre ce que sera le prochain mouvement de Vladimir Poutine. Je vous emmène aussi à Madagascar qui essaye l'optimisme entre deux catastrophes et qui a bien du mérite. Et puis en deuxième heure, à partir de 19h20, c'est le téléphone sonne. Aujourd'hui, on parle 13e mois, heure sup, dimanche non travaillé dans la restauration. Depuis les confinements, le secteur a beaucoup de mal à recruter parce que les salariés ne veulent plus revenir aux mêmes conditions de travail. Des négociations ont commencé ce mardi. Si vous êtes resté chez votre patron précisément parce qu'il a changé vos horaires, si vous êtes parti parce que désormais c'est non, si vous avez aménagé les conditions de travail dans votre établissement, vous nous intéressez, appelez-nous en tout cas au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et Elodie Calac, bonsoir. Encore nuageux au nord, voilà pour demain.
Oui, bonsoir à tous. Du nord-ouest vers le nord de la Seine, la région parisienne, le centre-val de Loire, on aura en effet beaucoup de nuages demain matin. Des brouillards en prime, quelques gouttes de temps en temps. Ça s'éclaircira tout de même un petit peu l'après-midi. De petites éclaircies parviendront à percer la couche nuageuse. Et puis du nord de l'Aquitaine vers le Lyonnais, la Lorraine, l'Alsace. Là aussi, ce sera encombré le matin avec des nuages et des brouillards, mais le soleil fera d'assez belles apparitions l'après-midi.
Et du soleil pour le sud-est.
Sur les Pyrénées et de la Méditerranée jusqu'aux Alpes, en effet. Le soleil s'imposera rapidement. Le seul bémol sera le vent. Le Mistral soufflera encore le matin jusqu'à 70 km à l'heure et puis il s'essoufflera l'après-midi. Pour les températures, 1 à 7 degrés le matin. L'après-midi, 10 à 14 au nord, 13 à 16 au sud et 16 à 20 en Méditerranée.
Elodie Calac de Météo France. Merci beaucoup, Elodie. À tout à l'heure, après 19h.